Europe, Laurent Berthaud, Nathalie Hamar.
Bonjour Laurent.
Bonjour Nathalie, bonjour à tous.
Et nous allons parler des limites des retouches d'images.
En France, une députée demande que les photos retouchées soient signalées comme telles pour lutter contre l'anorexie, alors qu'en Ukraine, hommes et femmes politiques usent et abusent de la retouche d'images.
1989, la chute du mur, un symbole pour l'Europe de l'Ouest. Qu'en est-il à l'Est?
Question posée par deux chercheurs français dans notre chronique livre, 1989 à l'Est de l'Europe.
La bibliothèque de Sarajevo, toujours en ruine, 17 ans après sa destruction lors de la guerre de Bosnie.
Malgré une aide versée par l'Union européenne, les moyens sont toujours insuffisants pour rénover ce bâtiment très symbolique.
Et puis le commerce équitable, c'est aussi dans l'hôtellerie.
Il est désormais possible de dormir éthique dans un hôtel d'Amsterdam.
La technique est loin d'être nouvelle, elle est même née avec la photographie, la retouche d'image qui permet de rendre plus beau, mais aussi d'effacer les détails gênants. Les procédés numériques ont donné un sérieux coup d'accélérateur aux retouches, mais la technique est de plus en plus sujette à polémique.
Et c'est par un biais inattendu que le débat vient d'être relancé en France, celui de la lutte contre l'anorexie. Il y a deux mois, la députée UMP Valérie Boyer a proposé qu'un avertissement soit rendu obligatoire pour toute photo retouchée. Certains clichés de jeunes mannequins très minces, voire très maigres, pourraient, selon cette députée, avoir une mauvaise influence sur les jeunes filles ayant des tendances anorexiques. La proposition de loi de Valérie Boyer a suscité un tollé de protestations de la part des photographes et des magazines. Écoutez ce reportage de Catherine Potet.
Qui soutiendra la proposition de loi de Valérie Boyer sur les photos retouchées? Posons d'abord la question aux spécialistes des TCA, les troubles des conduites alimentaires dont fait partie l'anorexie. Les photos retouchées présentant dans les magazines des jeunes femmes étonnamment minces ont-elles une influence néfaste sur les jeunes filles anorexiques? Écoutez la réponse de Christine Chiquet. Elle est psychothérapeute et présidente de la Fédération nationale qui regroupe les associations d'entraide dans le domaine des TCA.
Si vraiment on pensait que c'était ça la raison, je pense qu'il vaudrait mieux interdire ces photos. Hein. C'est un petit peu dissonant de montrer la photo et de dire, mais attendez, il ne faut pas y croire, ce n'est pas vraiment ça qu'on a pris en photo. Alors pour ce qui concerne plus précisément les troubles des conduites alimentaires, c'est une pathologie, c'est une maladie dont l'origine est très complexe et dont l'origine est surtout une très grande souffrance psychologique des personnes qui manifestent ces troubles. Donc, penser qu'on va réduire la gravité de ces troubles en mettant une petite ligne sous les photos, c'est sympathique d'y penser, mais c'est probablement pas le bon combat à mener. Le combat à mener, il est plus dans la prise en charge, et s'il y a de la prévention à faire, c'est une prévention beaucoup plus globale au niveau social, sur la question de l'estime de soi, sur la question peut-être de l'image, mais surtout de la capacité des jeunes filles à se construire dans des bonnes conditions et certainement pas de juste agir sur la partie émergée de l'iceberg qui sont les photos et les images.
Du côté des féministes, peu suspectes de complaisance à l'égard des photos stéréotypées de femmes toujours plus minces, on ne soutient pas non plus la proposition de loi de Valérie Boyer, considérant que le vrai problème est ailleurs, dans la standardisation des critères de beauté. Enfin, du côté des magazines et des photographes, la fronde est générale. Le photographe Hervé Bernard a signé la pétition lancée par le site Pixel Arthez pour s'opposer au signalement des photos retouchées.
Valérie Boyer, pour moi, elle découvre vraiment la lune parce que, en fait, la retouche photo a toujours existé. Elle est née en même temps que la photographie, puisque sur les premiers portraits, on en redessinait les yeux, puisque les poses étaient de plusieurs secondes, et donc les gens clignaient des yeux, et c'était donc un regard vide, et donc c'était absolument pas acceptable. Et de tout temps, les personnes ont demandé à ce qu'on retouche leur portrait, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on demande à un portrait? C'est de coller à l'image qu'on a de nous-mêmes et non pas de coller à la réalité. C'est-à-dire que ce grain de beauté que vous avez sur le bord de votre visage et que vous oubliez, bien que vous le voyez tous les jours dans le miroir, quand vous le retrouvez sur la photographie, vous demandez qu'on l'efface parce que tout d'un coup, il vous dérange.
Il y a aussi la retouche plus politique qui ne date pas d'hier. Du temps de l'Union soviétique, la disgrâce passait par un petit coup de pinceau faisant disparaître l'indésirable des photos officielles. Plus récemment, en France, la photo de l'ex-ministre de la Justice, Rachida Dati, a subi une modification importante. La bague visiblement coûteuse qu'elle portait au doigt a disparu lors de sa publication en une du Figaro.
Alors, il faut déjà préciser une chose qui est importante. C'est pas le photographe qui a retoucher cette photo, c'est le journal qui a pris l'initiative de retoucher cette photo. Ce qui d'ailleurs pose un problème entre guillemets légal, puisque en France, tout créateur d'image, quand il publie son image, il cède le droit de reproduction, mais il a un droit de regard sur le respect de son image lors de sa publication. Moi, personnellement, j'aurais fait cette photo, je n'aurais pas accepté que ma photo soit retouchée, puisque pour ma part, je livre ce qu'on pourrait appeler un produit fini.
Donc il y a un code de conduite et un droit moral aussi pour les photographes. Comment ça se passe exactement ?
Alors, il y a un droit moral qui donne au photographe le droit de regard sur la manière dont est utilisée sa photo, c'est-à-dire si elle est recadrée. Par exemple, Cartier-Bresson n'a jamais accepté qu'une de ses photos soit publiée et recadrée, puisque le recadrage est deux choses à la fois. D'une part, c'est supprimer une partie de l'image, ce qui, entre guillemets, est une forme de retouche, et d'autre part, changer la composition de l'image, puisque vous la rétrécissez dans la longueur ou dans la hauteur, et donc les lignes de force et de composition ne sont plus les mêmes.
Photos retouchées, recadrées, modifiées, aucun cliché ne semble pouvoir prétendre à une vérité objective et incontestable.
Et donner une bonne image de soi pour les hommes et les femmes politiques, ce n'est pas, Laurent, une simple coquetterie, c'est un argument électoral de tout premier ordre.
En Ukraine, à l'approche de l'élection présidentielle du 17 janvier, les candidats rajeunissent de semaine en semaine et sont chaque jour plus sveltes et élégants. Là encore, c'est l'effet Photoshop, Camille Magnard.
À ce point-là, pas de doute, c'est de la magie. À chaque nouvelle série d'affiches électorales, le candidat de l'opposition, Viktor Yanukovych, paraît 10 ans de moins. Le chef du parti des régions, favori dans les sondages, affiche dans sa biographie officielle 59 ans, mais celui qui se présente sous son nom et sous ses traits, lui, en paraît à peine 40. Plus la date du scrutin approche et plus les publicitaires vont loin dans la retouche, apparemment sans aucun scrupule, parce qu'à force, oui, ça se voit, et personne n'y croit vraiment. Il suffit d'allumer sa télévision pour voir le vrai Yanukovych, ses traits épatés, son double menton et ses rides tombantes, presque plus rien à voir avec le petit jeune au visage fin, son sourire enjôleur et cette peau parfaitement lisse. Il y a donc la manœuvre grossière de Yanukovych, mais il y a aussi sa rivale numéro 1, la première ministre Yulia Tymoshenko. Elle, son truc, c'est la perfection du visage, un visage qui ne vieillit jamais, en tout cas pas sur les affiches. Tymoshenko, c'est un visuel, une marque de fabrique très étudiée, avec sa tresse, son teint clair et ses zéro défauts. Sauf que là encore, à y regarder de plus près, la dame a de plus en plus de mal à cacher les rides et la fatigue qui s'installent sur son visage. Il y a aussi l'outsider, Arseniy Yatsenyuk, 35 ans, lui pour le coup passe pour trop jeune dans l'opinion et il doit donc se vieillir pour se donner un air plus sérieux. Enfin, vient le président sortant, Viktor Yushchenko, lui aussi candidat. Involontairement, Yushchenko a fait beaucoup pour la cause des retoucheurs d'images en Ukraine. Après son empoisonnement à la dioxine en 2004, il a lui aussi abusé de Photoshop pour masquer les séquelles indélébiles qui défiguraient son visage.
Livre. Et il est question aujourd'hui encore du 20e anniversaire de la chute du mur de Berlin, mais cette fois-ci, Laurent, avec un point de vue radicalement différent.
1989, à l'Est de l'Europe, c'est l'ouvrage présenté par deux chercheurs français, Jérôme Heurtaux et Cédric Pellen. Un livre qui va au-delà de l'histoire de la seule Allemagne et de l'aspect commémoratif. Maya Szymanowska, bonjour.
Bonjour.
Vous avez lu cet ouvrage, qu'est-ce qu'ont voulu démontrer les auteurs ?
Alors les deux chercheurs se placent loin d'une vision enchantée, dominante à l'Ouest, qui voit dans la chute du mur le symbole quasiment unique de la fin du communisme. Jérôme Heurtaux et Cédric Pellen rappellent qu'il y a eu des événements qui, dans d'autres pays de l'Est, ont préparé la chute de ce mur de Berlin. Leur recueil de textes de jeunes francophones spécialistes des pays de l'Est montre la diversité des points de vue qui partagent, plus qu'elles ne rapprochent, les pays de la nouvelle et de l'ancienne Europe. Alors, il est intéressant de suivre comment 1989 a été interprété par les partis politiques qui se sont emparés de sa symbolique, soit pour s'en démarquer, soit pour s'en inspirer.
Alors, s'il est proposé par deux chercheurs, il s'agit en fait d'un ouvrage collectif et c'est bien toute la force et l'intérêt de ce livre, Maya.
Oui, il s'agit de jeunes chercheurs, voire de doctorants, soit français ayant pour objet les pays de l'ancien bloc soviétique, soit francophones. Grâce à cette multiplication de points de vue, l'ouvrage est une véritable balade à travers cette autre Europe, toujours peu connue, de l'Ukraine en passant par la Pologne, la République tchèque ou la Roumanie. La force de ce livre réside dans les trajectoires individuelles à l'épreuve de ce changement qu'était 1989. On découvre ainsi un jeune cadre communiste communiste ukrainien et sa conversion à la démocratie, mais aussi les souvenirs nostalgiques d'un travailleur biélorusse ou le témoignage d'un entrepreneur tchèque.
Sous-titre de cet ouvrage, 1989, une mémoire controversée, en quoi la chute du mur et toute cette année 89 pose problème dans les pays de l'ancien bloc soviétique.
Alors cette année pose problème car les signes de grands bouleversements qui n'en déplaisent aux citoyens de l'Ouest ne sont pas tous signes d'une amélioration des conditions de vie. Sur l'exemple de la Pologne, Jérôme Heurtaud et Cédric Pellen montrent que 1989 a été d'abord un mythe fondateur, mais curieusement rejeté par les conservateurs anticommunistes tels les frères Kaczynski. Et c'est paradoxalement la gauche polonaise qui se réclame de 1989 et de la table ronde. Alors, un autre article concernant l'Allemagne de l'Est analyse le désenchantement des ossis pour qui la chute du mur est aussi le symbole du début de l'épuration qui frappe souvent à l'aveugle et d'une manière injuste.
Et puis il faut noter aussi que dans les pays de l'ancien bloc communiste, ce n'est pas forcément 1989 en tant que tel qui s'est imposé comme symbole de la rupture avec le passé.
Oui, par exemple, pour les Berlinois, c'est finalement la date de la réunification, le 3 octobre 1990, qui est plus significative que la chute du mur. C'est elle qui est citée lors des débats parlementaires concernant la localisation de la nouvelle capitale allemande. Pour la Roumanie, la date charnière n'intervient qu'en 1996, au moment de la première alternance électorale. Le voisin bulgare connaît un phénomène analogue. À l'instar de la Roumanie, en 1996, c'est en 1997, à l'occasion des mobilisation sociale de janvier et des élections anticipées d'avril, que naît un discours valorisant justement cette année 1997 comme moment charnière par excellence. Les discours politiques en Pologne ont tendance à substituer à la chute du mur d'autres dates. Bref, ce livre, 1989 à l'Est de l'Europe, donne une image concrète, variée des manières de voir la chute du mur du côté de ceux qui étaient emmurés.
Merci Maya Szymanowska.
Reportage.
En 1992, trois ans après la chute du mur de Berlin, l'ex-Yougoslavie, libérée du glacis soviétique, n'en finissait pas de s'entre-déchirer. Sarajevo, la capitale bosniaque, était quasiment réduite à l'état de ruine lors de la guerre de Bosnie.
Aujourd'hui, dans cette ville de 400 000 habitants, l'un des bâtiments symboles de Sarajevo, la Bibliothèque nationale, pris pour cible dans la nuit du 25 au 26 août 92. Cette bibliothèque donc est toujours en piteux état malgré les travaux de restauration. Ils ont été engagés dès 1997 grâce à la Commission européenne. Le personnel a été évacué vers un espace trois fois plus petit et les livres abîmés sont peu à peu restaurés avec trop peu de moyens. Écoutez ce reportage d'Élise Delève.
C'est l'un des seuls bruits qu'on entend ici. Le bois qui craque sous les pas des lecteurs de la bibliothèque de Sarajevo. Après le bombardement de l'édifice du centre-ville, la Vjedinca, comme on dit en Bosnie, a été placée de l'autre côté de la ville, dans une ancienne caserne militaire restaurée par l'UNESCO et la Banque mondiale. Seulement 300 places assises, des salles de lecture financées par d'autres pays et une salle au trésor. Gardée à double tour.
Bienvenue dans le bâtiment collection spéciale. Ici, on garde les manuscrits anciens et les livres rares, les vieilles cartes. Ce livre, par exemple, date de 1592. C'est là que la Bosnie a été citée pour la première fois. Vous voyez là, Bosnie.
Et si ces ouvrages sont si précieusement gardés, c'est qu'ils représentent l'histoire et surtout l'unité du pays qui regroupe trois communautés, bosniaques, serbes et croates. Et c'est peut-être cette unité qui a poussé l'armée serbe à bombarder cet édifice culturel le 25 août 1992. 90% des 3 millions d'ouvrages qui s'y trouvaient ont été détruits. Zilka, qui travaille aujourd'hui à l'accueil, était dans le bâtiment cette nuit-là.
Les bombardements ont duré toute la nuit, sans s'arrêter. Ça a provoqué un fort incendie. On a tenté de l'étouffer comme on a pu, mais on n'a pas réussi. Le feu allait du sous-sol au plafond. Les pompiers sont arrivés, alors tout s'est mélangé. Les flammes, la fumée, l'eau, c'était horrible. Comme il y avait des grenades qui tombaient tout autour de la bibliothèque, on n'est sorti que le lendemain. vers 9h30.
À l'image de Zilka, 17 ans après le bombardement, les employés de la bibliothèque veulent croire en l'avenir. Mais le manque d'argent les rappelle souvent à l'ordre. Derrière la caserne, non loin d'un panneau terrain miné, Bedita, qui travaille à la Viedzinsa depuis 28 ans, ouvre les portes d'une vieille baraque. Avant, c'était une écurie. Des milliers de livres sont empilés là, parce qu'il n'y a pas de place ailleurs, entre une camionnette et une toile d'araignée.
Dust. De la poussière, vous pouvez la voir, la sentir, partout. Ce n'est pas un endroit décent pour garder des livres. Il y a des trous dans le mur, dans le sol, il y a même de la rouille sur cette étagère. Reste à espérer que le plafond ne s'effondre pas.
Un peu plus loin de l'écurie, un laboratoire neuf. C'est le royaume de Nermin, financé par l'Europe. Celui qu'on appelle ici l'artiste est heureux. Il touche 300 euros par mois, mais il aime son métier. Il restaure notamment les livres ravagés pendant l'incendie de 1992.
C'est un script écrit en arabe qui était dans la bibliothèque. Ce n'est pas le feu qui l'a endommagé, mais les fortes températures qui a provoqué l'incendie. En plus, avec le temps et les problèmes de conservation, des micro-organismes et des champignons sont apparus. Cet ouvrage a été fait selon une technique arabe bien particulière. Vous voyez, les feuilles sont collées les unes aux autres. Pour restaurer un livre comme celui-ci, il faut d'abord le désinfecter pour détruire les micro-organismes. Il faut ensuite décoller une par une les feuilles et enfin, il faut le relier. Je me sens comme un docteur devant un patient mourant et je dois le sauver.
Aujourd'hui, Nermin, Bedita et les autres n'attendent qu'une chose, retourner dans les locaux du centre-ville. Mais la tâche s'annonce difficile. Plus de 10 ans après le début des travaux, le vieux bâtiment est entouré d'échafaudages et ses vitres sont toujours bouchées par d'immenses planches de bois.
À mon humble avis, nous voici tous confrontés à ce que moi j'appellerais un cas d'espèce. Autrement, je n'aurais pas abusé de votre temps précieux.
Sortir.
Gadget, argument commercial ou vraie démarche respectueuse de l'éthique, le premier hôtel estampillé commerce équitable vient d'ouvrir à Amsterdam.
Le Dorit Hotel, près de l'aéroport, propose aujourd'hui une chambre équitable. Il y en aura 40 en 2010. Reste à savoir ce qui les différencie vraiment d'une chambre classique, Didier Burg.
Sans doute une première mondiale, cette chambre d'hôtel équipée quasi exclusivement de produits issus du commerce équitable. La plupart des objets ont le label Max Havelaar, de l'ONG néerlandaise du même nom, réputée pour ses méthodes commerciales avec de petits producteurs du tiers-monde respectueux de leur environnement. Le développement durable est une question essentielle pour un établissement comme le nôtre, explique le gérant de l'hôtel Dorint, situé à l'aéroport d'Amsterdam. Cette nouveauté s'est imposée pour cet établissement qui s'efforce déjà de faire des économies d'énergie et qui trie ses déchets. Pour l'heure, une seule chambre est ainsi équipée. Mais l'année prochaine, un étage entier de cet hôtel devrait être estampillé du label commerce équitable. Dans le secteur de l'hôtellerie, les gros débouchés concernent en priorité tous les objets en tissu, draps, houttes, couettes d'oreiller, serviettes, peignoirs, qui peuvent être aisément fabriqués dans du coton écologique. Mais pour marquer les esprits, l'hôtel est allé plus loin. Le thé et le café à disposition dans cette chambre portent aussi le label commerce équitable. Même le minibar est rempli de jus de fruits, de boissons et de snacks Max Havelaar. Et jusqu'aux fleurs, qui ont été produites par des fermiers respectueux de l'environnement. Reste que la question éthique doit demeurer un élément déterminant. Les hôtels ne doivent pas considérer le commerce équitable comme une nouvelle machine à faire de l'argent, mais comme faisant partie de leurs responsabilités dans la société, estime l'ONG. Selon un sondage, les Néerlandais seraient prêts à payer près de 17 euros de plus pour séjourner dans une telle chambre.
C'est déjà la fin d'Accent d'Europe, émission produite avec le soutien du programme Euranet.
À la réalisation, il y avait Françoise Grelot, à la technique Philippe Ohaillon. Un mot du programme de demain, Laurent.
Les écologistes espagnols et portugais dénoncent les trop nombreux prélèvements d'eau sur le Tage.
À demain pour un nouveau numéro d'Accent d'Europe.